je voulais vous présenter des travaux que nous avons menés avec deux chercheurs, Marie-Lou Leroy et François Levin, des travaux que nous avons initiés il y a quelque temps maintenant au sein du Conseil national du numérique et que l'on prolonge et qui vont donner lieu à la publication d'un article dans quelques jours. Et donc c'est le résultat de ces travaux que je voulais mettre en débat avec vous aujourd'hui et bénéficier d'un échange de vues autour de ces propositions. Donc nous sommes partis du constat selon lequel l'attention est notre capacité essentielle en tant qu'être humain à assurer notre développement, notre survie, à réagir, à interagir avec notre environnement et constat également que la capture attentionnelle est devenue un marché prolifique, un marché, on l'a vu avec l'exposé précédent, qui se développe de façon exponentielle depuis l'industrialisation des médias et de l'audiovisuel. Alors certes, la question de l'attention, on le sait, n'est pas nouvelle. Elle est au cœur du modèle économique de la publicité et des médias. Mais la question de l'attention est aujourd'hui considérablement renforcée avec le déploiement de l'économie numérique qui est, on l'a encore rappelé tout à l'heure, fondée en grande partie sur l'exploitation des données. Alors plusieurs travaux depuis quelques mois, quelques années désormais, ont expliqué comment l'architecture et le modèle d'affaires des services numériques produisent ce que l'on appelle désormais des boucles attentionnelles sans fin, et que finalement aujourd'hui, autant, peut-être même plus que le traitement des données à caractère personnel, la captation de l'attention est en quelque sorte devenue le nouveau Graal à atteindre au sein du marché numérique. Lorsqu'on étudie ce phénomène qui fait l'objet de nombreux articles, de nombreux documentaires, de plusieurs essais également, celui que Timothy Duquesne nous a présenté, l'essai également de Bruno Patino sur la civilisation du poisson rouge notamment, on voit qu'il y a également de nombreuses analyses académiques en sciences informatiques, en philosophie, en psychologie, en économie, mais qu'en revanche, sur le plan juridique, il y a peu d'analyses encore menées sur cette question de l'attention. Si l'on regarde actuellement les textes existants et leur application, on voit que le droit commence à s'intéresser à l'attention, mais de façon extrêmement ponctuelle, puisque certains textes concernent par exemple quelques activités comme les jeux en ligne ou certains publics et particulièrement les mineurs avec différentes propositions de loi et rapports qui sont actuellement relatifs à ce sujet. En quelque sorte, on peut dire que l'attention est restée dans l'angle mort du législateur. Un législateur qui aujourd'hui concentre ses actions sur d'autres leviers de l'économie numérique, les données, les contenus illicites, les contenus contrefaisants, les contenus incitant à la haine, les fausses nouvelles, les contenus terroristes, ou encore les plateformes de numérique. Et lorsque l'attention est ponctuellement appréhendée par le droit, c'est finalement selon une logique qui semble être purement sanitaire. On le voit avec la proposition de loi déposée par les sénateurs à l'automne 2018 pour lutter contre la surexposition et l'addiction aux écrans. Et c'est d'ailleurs cette même logique que l'on retrouvait interrogée par la consultation menée dans le cadre des états généraux à l'ère numérique, qui avait été lancé début 2019 et qui avait pour sixième thème cette problématique de l'exposition, de la surexposition et de l'addiction aux écrans. Pourtant, il nous a semblé que la question de l'attention ne peut pas être réduite à cette seule approche sanitaire. En effet, et nous l'avons vu encore tout à l'heure, les enjeux de la captation, les enjeux de l'exploitation, peut-être même de la manipulation de l'attention, en somme, les enjeux du traitement de l'attention, vont bien au-delà de cette problématique sanitaire, et ce, tant à titre individuel qu'à titre collectif. Et c'est fort de ce constat qu'avec Marie-Lou Leroy et François Levin, nous avons mené cette réflexion pour comprendre comment le droit devait ou pouvait organiser une protection explicite et transversale de l'attention des individus dans le cadre de la captation de leur attention sur les interfaces numériques. Et donc c'est cette réflexion que je souhaitais vous livrer désormais. Alors, nous avons tout d'abord essayé de rappeler, d'analyser, de discuter les réponses apportées par le droit pour constater que ces réponses nous paraissent insuffisantes, alors même que la protection de l'attention dans les espaces numériques est désormais une nécessité. Et par conséquent, il nous est apparu nécessaire de penser à un cadre juridique, de proposer un cadre juridique spécifique pour protéger l'attention et au-delà pour mettre les individus en pouvoir d'agir face aux atteintes toujours plus croissantes portées à leur attention. Et c'est ce cadre juridique adéquat qui nous semble pouvoir reposer sur la consécration d'un nouveau droit, un droit à la protection de l'attention et au-delà un droit de l'attention, puisqu'il s'agira d'intégrer l'ensemble des acteurs du système dans cette nouvelle régulation. Donc voilà les propositions que je souhaiterais livrer à votre analyse cet après-midi, en commençant par vous expliquer pourquoi nous avons considéré, mais nous ne sommes pas les seuls, nous l'avons vu, à ce qu'il est nécessaire de protéger l'attention aujourd'hui dans les espaces numériques. Cela est nécessaire parce que, et cela a été encore rappelé tout à l'heure, notre attention s'avère de plus en plus menacée sur les interspaces numériques et l'on sait aujourd'hui que le capitalisme numérique qui a forgé le modèle économique des services et des plateformes numériques suscite des interrogations croissantes. Ce projet économique, puisqu'il s'agit bien d'un projet économique, il n'y a pas ici là de déterminisme technologique, un projet économique qui s'est bâti sur cette économie de l'attention. Et ce projet économique, on nous l'a fort bien décrit, repose sur un alliage entre l'exploitation des données personnelles, des dispositifs de recommandation personnalisés grâce à des traitements algorithmiques, des mécanismes de fragmentation de l'attention, des récompenses aléatoires variables, ainsi qu'un design qui semble être sans cesse amélioré par autant d'équipes que de marketeurs, d'ingénieurs, de designers, de spécialistes des sciences comportementales qui œuvrent à l'exploitation de l'attention des utilisateurs pour bâtir ce modèle économique. Et ici, l'objectif va être d'exploiter un certain nombre de biais cognitifs des utilisateurs qui ont été identifiés dans un cahier dont je vous recommande la lecture, qui est sorti l'année dernière et qui a été produit par le laboratoire Link de la CNIL pour alimenter ces réflexions prospectives et dont vous avez ici la référence. C'est un cahier qui s'intitule « La forme des choix » et qui va cartographier les différents biais et les différentes utilisations des interfaces graphiques et questionner ces différentes utilités au regard de l'intérêt des utilisateurs notamment. En effet, même si certains biais sont positifs, la plupart ne sont pas conçus dans l'intérêt des utilisateurs. Et certains sont même, parmi ces dispositifs, ont même pour objectif de tromper l'attention, de tromper ce que juridiquement on va appeler le consentement de l'utilisateur. Ce sont les nudges, les techniques pour inciter les personnes ou certaines catégories de personnes ciblées à évoluer, à changer dans leur comportement, à faire certains choix sans y être contraints par une obligation, ni par une sanction, et donc c'est l'incitation douce ici qui est à l'œuvre techniquement. Donc ici encore, je vous renvoie à ce cahier qui est extrêmement riche sur l'analyse de ces différents éléments qui les interrogent et propose un certain nombre de solutions. On voit que ce modèle économique qui s'appuie sur des techniques a pourtant des conséquences qui peuvent s'avérer extrêmement préoccupantes. Cela a encore une fois été rappelé tout à l'heure. Rapidement, je voulais lister ces conséquences qui peuvent se déployer à titre individuel tout d'abord et puis à titre collectif ensuite. À titre individuel, en effet, on sait qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui interrogent l'effet produit par la conception de ces interfaces graphiques sur l'autonomie individuelle, sur les libertés fondamentales des utilisateurs. On interroge également la nocivité d'une surexposition aux écrans, notamment pour le développement des plus petits. Et au-delà, on interroge également la précarité économique qui peut découler de cette utilisation des interfaces numériques pour les travailleurs des plateformes avec l'exploitation de ce digital labor et des incitations envoyées à ces travailleurs des plateformes au travers ces interfaces graphiques pour ces interfaces utilisateurs pour exploiter ces pressions attentionnelles et accroître encore une domination technique et donc économique. À titre collectif, on présente généralement les risques que cela peut générer sur le plan collectif s'agissant des risques politiques, des risques s'agissant du débat démocratique, de la construction du débat démocratique, avec la pollution attentionnelle qui peut être engendrée par la viralité des fausses nouvelles en période électorale. Cela a été expliqué également tout à l'heure. On sait que, et cela a été rappelé dans l'ouvrage de Bruno Patino, que la velléité de la captation de l'attention d'un certain nombre de services numériques va les amener à favoriser des contenus qui vont générer une surconcentration de l'attention, notamment les contenus choquants, les contenus haineux, les fausses nouvelles, et c'est cela la difficulté essentielle, au détriment des contenus de qualité. Et c'est ainsi que, comme le souligne Bruno Patino dans son ouvrage, que le capitalisme de l'attention et cette civilisation du poisson rouge conduit à favoriser l'information à cliquer au détriment de l'information professionnelle de qualité qui devient un contenu de second rang, et l'on pourrait ici prolonger ce risque dans l'ensemble de la production de contenu culturel désormais. Alors face à de tels risques, on ne peut que déplorer l'opacité finalement de la construction de ces interfaces numériques, de l'ordonnancement des contenus, des règles de modération. Cela suscite un certain nombre d'interrogations. Cela conduit également plus généralement à questionner ce modèle. Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer cette forme d'engagement métrique qui repose sur le seul intérêt financier et formalisé sous une forme algorithmique et dont l'objectif principal est la captation, la rétention et la monétisation de notre attention? Si l'on part de cette analyse, elle peut être discutée, elle est débattue par certains, mais si l'on part de cette analyse et que l'on regarde le cadre juridique, on peut constater que le cadre juridique est insuffisant pour assurer la protection de notre attention. Et le cadre juridique est insuffisant à deux égards. Tout d'abord, on va le voir parce que les mécanismes qui sont aujourd'hui promus par la plateforme, qui sont bien conscientes de cette question qui émerge et de la solution qu'elles doivent y apporter, ces mécanismes d'autorégulation qui sont promus par les plateformes sont insuffisants. Ils semblent en réalité dévier l'attention du problème. Et ensuite, nous verrons parce que les textes juridiques, le droit souple, mais le droit dur, n'appréhendent que indirectement, partiellement, la protection de l'attention. Alors rapidement, je voulais vous expliquer pourquoi, tout d'abord, nous considérons que les mécanismes d'autorégulation mis en place par les plateformes conduisent à dévier l'attention du problème. En effet, on voit que depuis 2018, même si c'est assez récent, on voit que les principaux acteurs du marché se présentent en quelque sorte comme l'antidote aux mots qu'ils ont générés. En effet, ils ont développé des outils de stratégie éditoriale a posteriori à destination de leurs utilisateurs pour les accompagner dans ce temps de consommation des écrans. Par exemple, YouTube qui propose une fonctionnalité Time Well Spent qui avait d'abord été développée au profit des enfants et qui est désormais généralisée. Google et Apple qui offrent également sur leurs utilités pour smartphones des outils de bien-être digitaux comme la mesure du temps d'écran. Et puis également ces outils de contrôle des notifications qui sont apparus il y a quelque temps. Autant d'outils qui, certes, vont dans le bon sens, mais qui en réalité ne paraissent pas être aujourd'hui suffisants. En effet, il semble que la pollution attentionnelle, telle qu'on a pu l'identifier, n'est pas pleinement adressée par ces outils promus par les plateformes. Tout d'abord parce que ces outils, finalement, ne visent pas la bonne cible puisqu'ils se focalisent principalement sur la gestion du temps et de la durée de la consommation d'écran. Alors oui, la durée de la consommation d'écran, les risques de surexposition peuvent être problématiques. Il y a des discussions à ce sujet. Mais cela n'est pas la seule question. Il y a également celle de la qualité des contenus, du risque d'enfermement des utilisateurs, qui ont été évoqués tout à l'heure, question auxquelles ces outils de bien-être digitaux ne répondent pas. En outre, ces outils mettent l'accent sur la responsabilisation de l'individu. Et ils ne permettent pas véritablement à l'individu d'être mis en pouvoir d'agir pour maîtriser son attention. Ces outils semblent en réalité culpabiliser l'individu. Ils, pour le moins, donnent une illusion de contrôle, une illusion de contrôle qui peut être vue comme particulièrement néfaste pour la liberté et pour la réalité du consentement des individus. Et c'est peut-être un des points, une des difficultés principales ici. D'autant que ces outils ne paraissent pas agir au bon niveau. En effet, ces outils s'adressent à l'individu, c'est-à-dire qu'ils ne s'adressent pas au niveau collectif. Or, la question de la régulation de l'attention ne peut pas être uniquement déployée sous l'angle individuel. Elle doit conduire à interroger les effets collectifs de la captation de l'attention, s'agissant, par exemple, des politiques publiques culturelles, des politiques publiques sanitaires ou encore des effets concurrentiels de la captation par quelques grands acteurs de l'attention. Et cela, les outils d'autorégulation n'offrent pas de réponse à ces questions. Voir ces outils d'autorégulation pourrait renforcer le pouvoir des plateformes, des grandes plateformes qui les mettent en œuvre, puisqu'elles deviendraient, comme certains ont pu le relever, des sortes de péages pour l'accès à nos dispositifs attentionnels. Donc on peut se dire que l'autorégulation telle qu'elle existe aujourd'hui ne paraît pas suffisante pour protéger notre attention. Et c'est alors du côté de la réglementation existante qu'on va aller regarder si l'on trouve les outils suffisants pour protéger l'attention. Or, l'attention ici encore paraît être dans l'angle mort de la réglementation existante. Il n'existe pas, autrement dit, de réglementation adéquate pour adresser, pour résoudre ces difficultés. On l'a vu, la réglementation existante se focalise principalement sur la lutte contre les contenus illicites, sur la protection des données personnelles, sur la protection du consommateur. Ce sont là des questions déterminantes, mais qui ne sont pas les seules à être posées par le déploiement de ce capitalisme attentionnel. Celui-ci est en passe d'être appréhendé par certaines législations relatives aux mineurs, on l'a vu. Également, s'agissant des milieux professionnels, on a vu consacrer un droit à la déconnexion par la loi travail de l'été 2016. On peut également citer les lois Infox du 22 décembre 2018 qui sont venues encadrer la manipulation de l'information pour protéger les utilisateurs, des mécanismes de désinformation durant les périodes électorales. Et puis on voit également aujourd'hui discuter la proposition de loi sur la haine en ligne, la proposition de loi Avia qui fait l'objet de beaucoup de débats actuellement et qui devrait de nouveau être discutée devant le Sénat très prochainement. Ces différents textes interrogent les mécanismes de rivalité, de viralité implicitement. Mais ils n'appréhendent pas la captation de l'attention de manière globale. Et dès lors, il faut regarder comment on pourrait aller plus loin et appréhender de façon transversale ces différents mécanismes. Alors un premier jalon existe avec le droit à la protection des données à caractère personnel, tel que rénové par le Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Et ce premier jalon existe, il a été analysé par le cahier de la prospective de la CNIL que je vous citais tout à l'heure sur la forme des choix, puisque ce cahier expliquait comment les grands principes mis en œuvre par le RGPD, notamment le principe de transparence dans le traitement des données, la garantie d'un consentement éclairé, la mise en œuvre du principe de privacy by design, autant de principes qui pourraient permettre de réagir aux stratégies de détournement de l'attention et à l'usage des dark patterns notamment. Et d'ailleurs, la décision de la CNIL, la première décision de la CNIL rendue après la mise en application, l'entrée en application du RGPD en janvier 2019, avait prononcé une sanction pécuniaire assez élevée, 50 millions d'euros, à l'encontre de la société Google, qui paraissait induire un contrôle des choix ergonomiques du responsable de traitement en cas de risque de traitement particulièrement intrusif des données. Et donc là, on voit se dessiner progressivement la saisie par le droit de ces choix relatifs à la captation des données et donc de notre attention. Alors ces fondements, ils sont prometteurs, il y en a d'autres, il y a le droit de la consommation également, mais ils ne suffisent pas à saisir la maîtrise de l'attention en tant que telle. Et c'est ainsi qu'il nous a semblé être nécessaire de penser un cadre juridique véritablement transversal pour assurer la protection de l'attention en tant que tel, un cadre juridique qui assurait la protection de l'attention, mais tout en assurant également la promotion de l'innovation. Et pour garantir cette balance des intérêts, il nous est apparu intéressant de s'appuyer sur la logique même portée par le RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui tente d'assurer cette même balance des intérêts entre protection de la personne concernée et promotion de l'innovation. Alors, voici cette proposition de cadre juridique protecteur de l'attention dans les espaces numériques que nous avons formulée. Pour lutter contre les processus de manipulation de l'attention, pour valoriser au profit de l'utilisateur la captation de l'attention, il nous semble tout d'abord nécessaire de conférer aux utilisateurs un droit, un nouveau droit subjectif à la protection de son attention. Mais cela n'est pas suffisant, il doit être complété par la consécration d'une responsabilisation des opérateurs de ces services de communication au public en ligne et à la définition de politiques publiques face au développement de ces nouvelles pratiques. Alors tout d'abord, nous proposons de reconnaître au bénéfice de l'utilisateur un droit à la protection de l'attention. La priorité ici, c'est de mettre en capacité d'agir les utilisateurs, de donner aux utilisateurs les moyens de contrôler leur attention et donc de protéger leur libre arbitre. Et pour cela, donc, il s'agirait de proposer la consécration d'un nouveau droit subjectif à leur bénéfice. Un nouveau droit subjectif sur le modèle du droit à la protection des données personnelles. Et en vertu de cette prérogative, il nous semble important tout d'abord de conférer un droit de visualiser l'attention numérique et également ensuite nous verrons un droit de maîtriser l'attention numérique. Visualiser l'attention numérique tout d'abord, cela tente de répondre à la première difficulté, c'est-à-dire à l'asymétrie informationnelle que subit l'utilisateur lorsqu'il utilise, lorsqu'il interagit avec des services numériques. Et pour cela, on pourrait consacrer un droit à l'information de la captation de l'attention en tant que telle, et ce droit pourrait se formaliser ainsi. Tout opérateur de traitement de l'attention aurait une obligation d'informer ses utilisateurs, dans des termes clairs et intelligibles, des différents dispositifs de captation de l'attention qu'il déploie sur son service. Alors, c'est une proposition à maxima. Pour le moins, on pourrait réfléchir à une signalétique de l'attention, c'est-à-dire que les utilisateurs pourraient, grâce à cette signalétique, être informés que tel contenu est viral, potentiellement addictogène ou encore financé par une entreprise, par un partenaire commercial ou par une filiale. De même, il pourrait être imposé aux opérateurs de rendre visible pour l'ensemble des individus les notes d'engagement assignées au contenu qu'ils consomment, et les opérateurs de traitement de l'attention devraient mettre à disposition de leurs utilisateurs des métriques qui leur permettraient de comprendre comment leur usage des services numériques détermine chacune des activités qui leur est proposée et vont déterminer le profilage, etc., ce qui a été évoqué précédemment. En somme, on pourrait proposer ici la consécration d'un droit à l'accès aux métriques de la captation de l'attention numérique. Au-delà, on pourrait également inciter à l'établissement de politiques publiques de formation, d'éducation, afin de renforcer la compréhension de chaque utilisateur, pas uniquement les plus jeunes, même si pour les plus jeunes c'est particulièrement essentiel, la compréhension de chaque utilisateur concernant le fonctionnement de ces services et concernant également le rôle de l'utilisateur dans le fonctionnement de ces services, tel que cela a été évoqué précédemment, comment en retweetant en fonction de mon réseau, de ma notoriété, le retweet va avoir une place différente et quelle est la responsabilité également de chaque utilisateur dans le fonctionnement de ces services. Faut-il encore le comprendre et le connaître pour cela? Et ces politiques publiques éducatives pourraient accompagner ce mouvement. Alors, parmi ces politiques publiques éducatives, il y en a une première qui n'est pas officielle, mais qui est en ligne sur Arte. Il y a des vidéos actuellement sur la dopamine et le fonctionnement d'un certain nombre de réseaux sociaux. Et donc, je vous invite à aller prendre connaissance de ces petites vidéos qui sont ludiques et très virales, un peu répétitives, mais qui font bien passer le message, du moins pour certaines générations. Pas pour les plus jeunes, généralement, quand les enfants prennent connaissance de ces vidéos, ou du moins les préadolescents, ils se sentent un peu heurtés par ce contenu qui stigmatise leur usage. Donc, il faudrait peut-être adapter les vidéos en fonction du public. En tout cas, c'est vers cela que l'on tend aujourd'hui. Allier transparence et éducation, cela pourrait permettre donc de mettre sur la place publique, de mettre en débat sur la place publique ces enjeux de l'exploitation, de la manipulation de l'attention sur et par les services numériques. Les utilisateurs pourraient donc choisir, en connaissance de cause, de quitter un service aux mauvaises pratiques pour privilégier d'autres services ou au contraire de rester, mais en toute conscience, sur le service qu'il affectionne. En somme, cela pourrait être une garantie de son libre arbitre. La visualisation de la captation de l'attention, c'est donc la première facette du droit à la protection de l'attention que l'on propose pour que les utilisateurs se rendent compte des possibles manipulations attentionnelles des services numériques. Toutefois, cela n'est pas suffisant parce que l'on sait aussi en droit que le droit à l'information est peut-être relégué au rang de simple illusion parfois. Et c'est pour cela que cette conception en quelque sorte défensive doit être accompagnée d'une conception plus offensive qui permettrait aux individus de co-construire, de valoriser la captation de leur attention dans leur propre intérêt. Autrement dit, l'individu devrait se voir conférer, en plus d'un droit de visualiser l'attention, un droit de maîtriser l'attention numérique. Alors, comment redonner à l'utilisateur, à l'individu, la maîtrise de son attention? Ici encore, la logique pourrait être inspirée de quelques solutions portées par le RGPD, et notamment du droit à la portabilité des données à caractère personnel qui a été consacré par le Règlement général sur la protection des données. En somme, il s'agirait de faire de l'utilisateur un véritable agent du système en lui permettant d'agir véritablement sur l'architecture de ce système. Pour cela, pour faire de l'utilisateur un agent du système, en somme, pour promouvoir ce qu'on pourrait appeler son agentivité, on pourrait ici, à minima, offrir à l'utilisateur la possibilité de maîtriser les métriques de son expérience utilisateur. On pourrait imaginer de lui offrir la possibilité d'accéder à des modalités alternatives de curation des contenus. Par exemple, chacun pourrait ainsi personnaliser les paramètres du service numérique qu'il utilise en privilégiant d'autres critères que le niveau d'engagement ou réduire par exemple la fréquence des systèmes de notification. On sait qu'un certain nombre de plateformes se sont engagées désormais dans cette voie et cela doit être encouragé. Certains proposent même d'aller au-delà de cette maîtrise de l'attention grâce à la maîtrise des métriques en consacrant un droit à la maîtrise du réseau. Et on pourrait inclure un droit à l'interopérabilité des systèmes numériques, un droit en vertu duquel l'utilisateur d'un service numérique pourrait lire les contenus diffusés par ses contacts sur un autre service numérique et y répondre comme s'il y était. C'est la proposition d'un certain nombre d'associations aujourd'hui. C'est une proposition qui s'intègre également dans l'idée qui est portée par le père fondateur du web, Tim Berners-Lee, pour redécentraliser le web à l'issue des dérives qui ont marqué ces dernières années. Il s'agirait donc de permettre d'offrir aux utilisateurs la possibilité de choisir des interfaces numériques qui n'exploitent pas à outrance, de façon déraisonnable, leur capacité intentionnelle, mais sans dégrader pour autant leur usage, sans dégrader pour autant leur interaction numérique, puisqu'on sait que c'est là tout le véritable enjeu de ces droits. L'ensemble de ces moyens, visualiser, maîtriser l'attention, rendrait alors possible une véritable autonomie attentionnelle, voire consacrerait l'agentivité de l'individu dès lors qu'il deviendrait véritablement un agent dans le traitement de son attention. Alors ces propositions transversales devraient certainement être complétées renforcées s'agissant de certains publics. Il pourrait en effet être souhaitable de consacrer des dispositions supplémentaires dès lors qu'il s'agit de protéger des individus en position de vulnérabilité. On pense ici aux jeunes, aux très jeunes publics, mais également en position de dépendance économique face à des phénomènes de captation attentionnelle. C'est le cas notamment des travailleurs des plateformes que je mentionnais. Alors pour les mineurs, on sait que des propositions de réforme sont à l'œuvre aujourd'hui, à l'initiative des sénateurs français, mais également outre-Atlantique, puisque la FTC, la Federal Trade Commission, a tout récemment condamné YouTube pour une amende de record de 170 millions de dollars pour avoir exploité les données de mineurs de moins de 13 ans sans le consentement préalable de leurs parents dans le cadre de la recommandations de vidéos circulant sur sa plateforme. Et un sénateur républicain a également proposé une loi pour réagir à l'exploitation de ces données de mineurs sur les plateformes de partage de vidéos, loi qui pourrait voir interdire les recommandations automatiques de vidéos pour ces jeunes publics. On pourrait penser également à imposer aux opérateurs de concevoir des produits qui n'exposeraient pas par défaut, donc by design, les jeunes publics à ces contenus à risques addictifs ou polluants, notamment en encadrant ces algorithmes de recommandation à destination des jeunes publics. On pourrait même imaginer que des produits non addictifs by design soient labellisés et qu'ils soient utilisés notamment dans les programmes de l'éducation nationale, qui pourraient ainsi également, non plus de façon que défensive, mais promouvoir des programmes de façon proactive pour permettre aux élèves de comprendre, voire d'apprendre à manipuler ces différentes interfaces numériques. Il y a des programmes de déploiement de compétences informatiques aujourd'hui au collège. On pourrait intégrer ces éléments qui sont finalement de leur quotidien dans ces programmes portés par l'éducation nationale notamment. Voici les quelques propositions qui peuvent être complétées, discutées, débattues, s'agissant de la consécration d'un droit à la protection de l'attention au bénéfice des individus. Mais il nous a semblé que cela n'est pas suffisant, que ce n'est qu'une première pièce de cet édifice du droit de l'attention, et que cette première pièce, elle doit être complétée pour assurer une protection effective, en questionnant le modèle de développement des acteurs de l'économie de l'attention. Et pour cela, il s'agirait de responsabiliser ces acteurs en leur imposant de nouvelles obligations, toujours sur la logique sur laquelle s'est construite le droit des données à caractère personnel avec le RGPD. Et cela devrait être complété par la promotion, la mise en œuvre de politiques publiques culturelles en ligne. Alors, tout d'abord, responsabiliser les opérateurs de traitement de l'attention. Il s'agirait pour cela, dans le prolongement des principes qui existent désormais s'agissant du traitement des données à caractère personnel, de soumettre ces acteurs à des principes directeurs pour qu'ils s'inscrivent dans une démarche de responsabilisation. Cela a été proposé par la FING, notamment dans ses travaux sur le rétro-design de l'attention, et nous avons proposé un certain nombre d'explications de ces principes dans notre article également. Donc on pourrait ici, par exemple, imaginer un principe de transparence selon lequel il conviendrait pour les opérateurs d'informer l'utilisateur de la finalité poursuivie par la captation de l'attention. On pourrait également poser le respect d'un principe de finalité, c'est-à-dire que l'attention ne devrait être collectée que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitée ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. On pourrait également penser ici à un principe de minimisation de la captation de l'attention au regard des stricts besoins du service. Il conviendrait également, au-delà de ces principes directeurs, de compléter ces mises en œuvre par l'application de méthodes de compliance qui sont déjà à l'œuvre en matière de droit des données à caractère personnel. Donc ici, cela imposerait de responsabiliser l'ensemble des opérateurs de la chaîne de traitement de l'attention, pour éviter finalement la dispersion des responsabilités qui résulte d'une construction en silo des différents services. Les opérateurs devraient chacun être tenus de réaliser une analyse de risque, une analyse qui serait proportionnelle au risque engendré par cette captation de l'attention. Ça existe déjà en matière de données à caractère personnel, on pourrait le compléter ici s'agissant spécifiquement de l'attention. Et tout cela serait soumis à des formalités de contrôle, c'est ce que propose la FING dans ses travaux, et ces contrôles pourraient passer notamment par la consécration d'une nouvelle fonction au sein de la structure des services dont le modèle économique repose sur la captation de l'attention. Donc, aux côtés du délégué à la protection de la donnée, on pourrait penser la consécration d'un Attention Protector Officer qui aurait pour objectif finalement d'évaluer en interne les risques, voire finalement, comme le dit la FING, de recréer une distance entre les besoins des utilisateurs, le design et les objectifs marketing et opérationnels de chacun des services. La FING propose également de consacrer un concept d'audit by design pour que chacun des opérateurs documente de façon accessible à tous leurs pratiques en mobilisant les méthodes habituelles du design, les croquis, les storyboards, les diagrammes, et que cet audit puisse être réalisé de façon indépendante pour pointer les lacunes des différents services. Il s'agirait donc finalement ici d'identifier au sein des différentes plateformes, du moins pour les plus grandes d'entre elles, les biais excessifs qui conduiraient à causer des effets préjudiciables à titre individuel et collectif. Ces nouvelles obligations, elles pourraient être bénéfiques. Elles pourraient être bénéfiques au fonctionnement du marché, elles pourraient permettre de faire émerger de nouveaux services, peut-être plus respectueux de l'attention des individus, jusqu'à aller vers un effet de cooling by design, comme on l'a déjà évoqué, pour déployer cette écologie de l'attention qui est promue depuis les travaux menés sur le sujet par Yves Citon et ses équipes. Mais au-delà de la responsabilisation des acteurs, il faut aussi promouvoir des politiques publiques de l'attention en ligne. Il faut promouvoir ces politiques publiques de l'attention en ligne. Ça sera ma dernière remarque. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, les effets délétères qui sont produits aujourd'hui par la pollution attentionnelle, les risques d'enfermement des individus, les risques de paupérisation de l'accès, peut-être même de la production de l'information et des contenus culturels. Tous ces risques appellent certainement aujourd'hui une action de l'État pour préserver un intérêt collectif, peut-être même l'intérêt général. Il s'agirait pour le moins de penser ces choix collectifs pour mieux contrôler l'attention. Et pour cela, cette réflexion devrait conduire à la mise en place, à la discussion pour le moins, de politiques publiques en ligne. Alors ces politiques publiques, elles pourraient s'inspirer du modèle du droit de l'audiovisuel, du modèle des politiques culturelles. Alors s'inspirer des règles, par exemple, de l'encadrement de la publicité pour appliquer certaines d'entre elles aux plateformes. On pourrait, par exemple, imposer une mise en visibilité d'une nouvelle section aux côtés des contenus publicitaires et des autres contenus pour mettre en avant certains contenus permettant de diversifier les visionnages, le visionnage des différents individus, ou du moins laisser une liberté de choix dans l'accès à ces contenus. On pourrait encore promouvoir des politiques alternatives de mise en visibilité, des politiques qui permettraient d'assurer ce que des chercheurs québécois également actuellement entendre promouvoir, c'est-à-dire la découvrabilité de certaines catégories d'œuvres, c'est-à-dire d'éviter un effet de globalisation et de paupérisation de l'accès à des contenus culturels sur des grandes plateformes de partage de vidéos, et notamment sur des grandes plateformes telles que Netflix, qui permettraient d'assurer finalement un certain nombre de quotas d'accès à certaines œuvres culturelles. Pourquoi pas d'imposer des critères dans la recommandation algorithmique proposée par ces plateformes data-driven. Alors évidemment, il y a plein de questions qui peuvent émerger de telles propositions. Comment imposer une politique publique de l'attention ? Quels sont les contenus qui mériteraient d'être mis en valeur et suivant quels critères ? Autant de questions qu'il nous faut creuser désormais, mais quoi qu'il en soit, il nous semble être nécessaire de penser collectivement, politiquement, cette question de la régulation de la captation de l'attention. Et cette question se fait plus pressante chaque jour, d'où l'utilité de ces débats. Et d'avance, merci pour vos remarques et vos questions qui permettent de faire avancer cette réflexion collective que nous devons désormais. Je vous remercie.